Pour l'heure, la deuxième partie de notre invité d'actualité des matins. Il est donc 8h16 sur France Culture. Incendie, l'affaire de tous. Nous sommes toujours en duplex avec le chercheur Thomas Kurth. Mais d'abord, un coup de fil en Suède, comme promis. Bonjour, colonel Pierre Chaleur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes colonel de sapeurs-pompiers. Vous êtes chef du département français de la sécurité civile en Suède, où vous avez été dépêché en renfort pour assister les secours suédois. Où est-ce que vous vous trouvez exactement? Alors, vous nous parlez?
Alors, nous sommes installés sur l'aéroport d'Örebro, qui est un aéroport civil situé dans le sud de la Suède, à peu près à la latitude de Stockholm, et où sont rassemblés tous les avions bombardiers d'eau des détachements européens qui sont venus en renfort de la Suède. Nous étions jusqu'à hier avec nos camarades italiens qui avaient envoyé deux Canadair, et nous sommes aujourd'hui avec nos collègues portugais avec deux avions légers bombardiers d'eau.
Au total, vous êtes combien d'hommes, en tout cas de donc italiens, portugais, français, à avoir rejoint la Suède?
Alors, nous sommes pour le détachement français donc un peu plus de 80 personnes, mais concernant l'ensemble des renforts européens qui ont été envoyés par les pays qui sont venus, qui ont répondu à la demande d'assistance de la Suède, il y a plus de 500 personnes venant de 6 pays.
Alors, les dernières informations faisaient état de 30 000 hectares de forêt brûlée. Vous avez peut-être des informations actualisées. On parle d'une cinquantaine de foyers différents. Que vous disent sur place les secours suédois de l'intensité de ces incendies par rapport à ce qu'ils connaissaient jusqu'à présent?
Alors, sur le bilan de ce matin, nous sommes sur des données que vous avez évoquées qui sont correctes, c'est-à-dire de l'ordre de 30 000 hectares pour l'ordre de grandeur des surfaces détruites. Mmh. En revanche, nous sommes sur une période de relative accalmie après le pic en intensité qui a eu lieu à la fin de la semaine dernière. Et je faisais le point il y a 3 minutes avec nos camarades suédois. Ils enregistrent ce matin 19 feux seulement, pourrait-on dire, en cours. Je dis seulement parce que en fin de semaine dernière, c'était de l'ordre de 83 incendies, dont 12 majeurs qui étaient en cours.
Donc vous êtes en train de maîtriser peu à peu les choses. Encore une fois, est-ce que l'intensité des incendies est de nature à surprendre aujourd'hui les pompiers suédois, vos collègues suédois? Est-ce qu'on parle d'une nouvelle génération d'incendies en Suède?
Alors, la Suède n'avait jamais été touchée avec cette intensité-là par des incendies de forêt. En 2014, un grand feu avait d'ailleurs nécessité l'emploi de renforts étrangers et la France avait déjà envoyé un groupe d'avions bombardiers d'eau. Mais ce qui s'est passé depuis 3 semaines, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'incendies totalisant plus de 30 000 hectares avec le plus gros d'entre eux qui a détruit 13 000 hectares, est sans aucun doute une nouveauté dans la perception de la question de la protection civile telle que les Suédois peuvent l'avoir. C'est quelque chose qui n'était pas envisagé et qui est intervenu après un printemps extrêmement sec et extrêmement chaud, qui a rendu les forêts suédoises, qui sont pourtant extrêmement différentes de nos forêts méditerranéennes ou du sud de la France, qui les a rendues aussi vulnérables.
Donc des forêts plus vulnérables et puis des infrastructures. Vous toussez beaucoup, ce sont peut-être les relents de fumée des incendies qui vous ont... D'accord, bon, je voulais savoir, colonel Pierre Chaleur, si les infrastructures en Suède étaient adaptées, étant donné que ce pays, comme vous le disiez, n'avait jamais été confronté à des incendies aussi violents jusqu'à présent.
Alors, l'irruption des incendies de forêt, c'est bien sûr une nouveauté. Et on voit très bien que le système de sécurité civile suédois est en train de s'adapter et avait réagi de toute façon après les feux de 2014. Mais il y a un côté extrêmement positif, c'est la façon dont la protection civile est organisée dans ce pays, avec une rigueur et des moyens tout à fait impressionnants. Nous sommes, indépendamment de l'aspect technique de la lutte contre les incendies de forêt qui demandent, c'est vrai, des matériels spécifiques et des modes opératoires un peu particuliers, nous sommes extrêmement impressionnés par le degré d'organisation de la protection civile et de l'État suédois.
Bien organisé, mais aussi bien soutenu, bien aidé. Si l'Europe ne s'est pas coordonnée sur beaucoup de sujets jusqu'à présent, en tout cas, elle sait aujourd'hui coordonner ses moyens et mobiliser ses forces sur les incendies, sur les feux de forêt.
Oui, ça c'est indiscutablement une des réussites de la construction européenne. Le mécanisme européen de protection civile dans sa forme actuelle date de 2001. Il a été utilisé à de très nombreuses reprises, non seulement pour des incendies de forêt, mais pour des inondations ou pour d'autres calamités ou catastrophes entre les pays de l'Union. Et on peut dire que la formule a été rodée, qu'elle est maintenant éprouvée et qu'elle permet aux pays de l'Union européenne, de s'appuyer mutuellement et réciproquement au fur et à mesure que les uns et les autres sont touchés par des catastrophes particulières.
Vous avez mis combien de temps, par exemple, vous, à arriver ? Combien de temps ça a mis pour se déclencher ?
Alors, un pays de l'Union européenne qui sollicite auprès du Centre de coordination d'urgence de Bruxelles, qui sollicite l'aide des autres par une request of assistance, voit donc sa demande enregistrée, et Bruxelles sollicite les autres pays de l'Union pour voir dans quelle mesure ils peuvent répondre à la demande émise par le pays. Ce qui fait gagner beaucoup de temps en termes d'organisation, c'est que les renforts que les uns et les autres peuvent s'accorder sont formatés de telle façon que si la France propose à Bruxelles d'envoyer un détachement aérien de lutte contre les feux de forêt, ce qui était le cas, le format de ce détachement est prévu. Le pays d'accueil sait quel est le renfort qu'il va devoir accueillir et ça permet de gagner beaucoup de temps. En fait, pour la France, ça s'est passé aux alentours de 48 heures, ce qui est une réaction extrêmement rapide.
Merci beaucoup Pierre Chaleur d'avoir été avec nous, colonel Pierre Chaleur, chef du département français de la sécurité civile en Suède. Merci beaucoup. Nous sommes toujours en duplex depuis Aix-en-Provence avec Thomas Kurt, chercheur, directeur de recherche sur les incendies de forêt à l'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture. Thomas Kurt, vous écoutiez sans doute ou entendiez le colonel Pierre Chaleur en parler avec nous. Si les risques évoluent aujourd'hui, comme on le disait en première partie, il faut aussi faire évoluer les plans de prévention des risques. Et ça concerne tous les pays d'Europe.
Oui, tout à fait. On s'aperçoit, et là le colonel Chaleur l'a bien expliqué, que nos mécanismes de sécurité civile, de protection contre les incendies, doivent évoluer avec les évolutions des paysages, les évolutions du climat. C'est indispensable.
Alors, est-ce qu'il y a des mesures dont on sait, dont on n'est pas pour l'instant 100% sûr de ce qu'elles pourraient marcher et fonctionner, mais dont vous estimez en tout cas qu'il faut les prendre quand même, que ça devient de toute façon une urgence. Et on verra après.
Oui, écoutez, moi ce que je vois en résumé, c'est deux grandes problématiques quand même pour le futur. La première, c'est exactement ce que vous discutiez avec le colonel Chaleur à l'instant, c'est la problématique des grands incendies. Donc des incendies qui vont faire plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Là, il parlait de 30 000 hectares au total en Suède. Et puis après, derrière, la problématique des zones urbanisées. Sur les grands incendies, indéniablement, ils sont favorisés par les changements climatiques en cours. Ils existent presque partout dans le monde. On sait qu'il y en a aux États-Unis, en Australie, en Amérique du Sud, en Indonésie et aussi un peu en Europe du Sud, en Méditerranée. Sur les grands incendies, la première question, c'est quand même de maintenir ou d'adapter, ce qu'on disait à l'instant, nos systèmes de prévention, d'alerte, de lutte, de pompiers.
Alors, voilà pour ce qui concerne les secours, les pompiers, mais sur les sujets qu'on évoquait tout à l'heure d'organisation, de gestion des territoires, une meilleure maîtrise de l'urbanisation, ça va de soi, étant donné ce que vous nous avez dit tout à l'heure, une meilleure gestion des forêts aussi, qui s'en occupe aujourd'hui, qui peut dire ce qui serait bon de faire dans les forêts pour une meilleure gestion et pour une meilleure prévention des risques?
Bien, écoutez, oui, il y avait un article dans Le Monde il y a pas très longtemps qui était intéressant à ce sujet. C'est intéressant à rappeler, en matière d'incendie de forêt, la gestion forestière est un des moyens les plus efficaces pour réduire le risque incendie. C'est-à-dire à la fois pour réduire la probabilité qu'il y ait un départ de feu dans une forêt et puis surtout réduire derrière l'intensité de ce feu et les dommages écologiques. Donc gérer les forêts, c'est utile. On parlait tout à l'heure de l'exemple landais dans lequel la gestion forestière intègre automatiquement la protection contre l'incendie. C'est la même chose en Méditerranée, simplement c'est un peu plus difficile, parce qu'en Méditerranée, dans le sud-est de la France, la forêt est plus morcelée, le risque est aussi plus élevé. Mais l'idée générale, c'est que les forêts, ça se gère. Et ça se gère notamment contre l'incendie. C'est-à-dire que si on a des forêts qui commencent à devenir trop anciennes, avec des suraccumulations de végétation combustible, l'idée c'est de les gérer. Plus on les gérera, plus on prélèvera de la biomasse intelligemment, avec un respect de la biodiversité. Mais il est évident qu'une forêt, ça doit se gérer sur le long terme. Sinon, la biomasse se suraccumule. Et puis finalement, ça devient ce que les pompiers appellent des poudrières. C'est-à-dire des zones dans lesquelles la végétation est tellement abondante qu'on a même du mal à rentrer, et si ça prend feu, c'est des feux extrêmement intenses. Donc la gestion forestière, c'est une première clé.
Est-ce qu'on peut aménager des zones qui pourraient stopper la progression du feu, par exemple? Est-ce qu'il y a des végétations ou des paysages dont on sait que là-dessus, il serait d'un vrai recours, quoi?
Exactement, oui. Ça, c'est aussi un sujet d'étude pour beaucoup de chercheurs en Europe notamment, mais pas seulement. Le feu se propageant dans le paysage par contagion, l'idée, c'est de créer des ruptures dans le combustible, dans la végétation combustible, dans le paysage, à des endroits stratégiques, par exemple sur un col ou à proximité, en amont d'une ville, par exemple. C'est tout ce qu'on appelle les coupures de combustible, c'est-à-dire des zones dans lesquelles on va volontairement couper la végétation, alors que ce soit de la forêt ou des herbes ou des buissons, on va entretenir ces zones et ça permettra pas forcément dans tous les cas d'arrêter le feu, mais au moins de diminuer son intensité et sa vitesse, ce qui permet aux pompiers de l'arrêter. Donc créer des coupures dans le paysage, alors ça peut être des coupures de combustible où on nettoie la végétation, ça peut être des zones pâturées, les retours d'expérience dans le Var ont bien montré après 2003 que les zones qui étaient très bien entretenues par le pâturage ont permis d'arrêter les feux.
Et les vignobles, ils sont assez résistants au feu. Quand on voit un vignoble atteint par le feu, en général, seuls les rangs qui sont en bordure de parcelles sont roussis. C'est une piste, ça, mettre un peu de vignoble, entrecouper les forêts de vignobles?
Oui, tout à fait. C'est un peu le paysage, alors peut-être qu'on l'idéalise, mais c'est un peu le paysage diversifié, agricole et forestier qui existait avant. Les vignobles, les champs d'oliviers, etc., les parcelles agricoles, les parcelles cultivées, tout ça, quand ils sont suffisamment abondants dans le paysage et bien placés, ça permet effectivement de ralentir la propagation du feu et parfois d'éviter ces fameux très grands feux dont on dit, ben vous l'avez rappelé tout à l'heure, que ça pourrait être une nouvelle génération de feux, c'est-à-dire des très grands feux dans lesquels le changement climatique est à l'œuvre, hein, très intense, très rapide, et des très grands feux aussi provoqués par le fait que le paysage se ferme.
Voilà, il faut aussi, on n'a pas le temps de tout dire, mais faire respecter l'obligation légale de débroussailler autour des maisons, ça ne se fait pas beaucoup, et à la limite ce serait peut-être aux municipalités de s'en emparer, et puis peut-être de faire payer les particuliers après. Bon, bref, là-dessus, vous avez plein de propositions à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire en termes de recherche pour conclure? Je crois que vous avez dirigé un projet de recherche en Nouvelle-Calédonie. Ça consistait en quoi? Quelles sont les conclusions?
En Nouvelle-Calédonie, bon, l'idée, c'était qu'il y avait peu, c'était pas loin d'une dizaine d'années, il y avait pas tout ce qu'on a en métropole, c'est-à-dire la mise en place d'un indice forêt météo quotidien pour évaluer le risque, un recensement des bases de données sur les feux historiques, une connaissance des départs de feux, des causes, etc. Donc l'idée, c'était d'aider nos collègues de Nouvelle-Calédonie à mettre en place ce système. Plus globalement, en matière de recherche, il y a de grosses recherches à faire sur les combinaisons futures, les scénarios futurs, à la fois de changement climatique, mais croisés avec des scénarios de changement de paysage, puisqu'on sait que les deux vont ensemble et créent le risque incendie. L'idée, c'est de simuler des feux futurs en fonction de scénarios réalistes en termes de climat, de changement climatique. Ça, il existe des scénarios du GIEC, hein, ça, on peut les avoir. Et de l'autre côté, simuler avec des scénarios d'évolution des paysages raisonnables.
Merci beaucoup Thomas Kurt d'être venu en parler avec nous ce matin, directeur de recherche à l'IRSTEA. Merci aux équipes techniques de France Bleu Provence qui vous ont accueillis. Bonne journée à vous. À suivre l'invité culture des matins, le navigateur et écrivain Yann Kefelec pour son dictionnaire amoureux de la mer.